I don't want to believe that.
Well, you didn't want to believe the world would end either. You don't want to now.
Well, it's what I feel. I felt it in. And I'm married to somebody who doesn't insist upon my thinking about it.
Or thinking, period.
That's marvelous. You think. You are the thinkingest man.
Is that supposed to make me feel bad?
And you ask questions.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Urban Contact, une émission de votre web radio Micro-Rebelle. Le but de l'émission d'aujourd'hui est d'en savoir un peu plus sur la communauté et association LGBT. C'est pourquoi nous avons rencontré Florian, président du Planning Familial 62, Emma, une jeune fille de 14 ans qui est venue nous délivrer son témoignage, et Carole, bénévole de la fondation Le Refuge des Hauts-de-France. Nous avons avec nous aujourd'hui Florian, président de l'association. Donc, bonjour Florian.
Bonjour.
Donc, bienvenue. Et peux-tu te présenter en quelques mots et aussi présenter l'association Planning Familial 62 dont tu fais partie?
Florian, je ne suis pas président parce que nous sommes une association en autogestion. Donc, en fait, c'est tout le CA qui représente l'association. Donc, je fais partie du conseil d'administration. Je suis aussi trésorier de l'association, mais de manière bénévole. Et je fais partie de plusieurs groupes de travail, dont le groupe LGBT. Donc, les groupes de travail sont des groupes qui se réunissent pour parler de certains questionnements. Et donc, je fais partie du groupe LGBT. Et le planning familial, c'est une association qui existe à Lens depuis les années 60, qui a connu des hauts et des bas, et c'est une association d'éducation populaire à la sexualité. Et qui touche tous les milieux et surtout les droits des femmes, le droit à la sexualité, le droit à la contraception, le droit à l'avortement. Donc assez large comme panel d'intervention.
Donc au planning familial, quels sont les droits que vous revendiquez et les actions que vous menez pour les personnes homosexuelles?
Ben déjà, comme je viens de le dire, c'est que c'est le droit à la sexualité qu'on souhaite. Donc surtout dans le panel LGBT, et maintenant on utilise même LGBT+, ou LGBTQIA+, tout dépend du nombre de lettres qu'on veut dire dans l'acronyme, mais c'est vrai que le droit à la sexualité qu'on souhaite, il y a même des personnes qui se définissent asexuelles, c'est-à-dire qui n'ont pas de sexualité, donc c'est vraiment très large. La contraception, la protection contre les IST aussi, donc ça c'est très important parce qu'on connaît tous et toutes le préservatif. Mais il y a d'autres moyens de se protéger, il n'y a pas que celui-là. Bien sûr, on est au niveau des communiqués de presse, donc quand il y a des discriminations en France ou même de par le monde, il y a un mouvement national au niveau du planning national qui s'est dressé contre les zones anti-LGBT en Pologne, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Le VIH, ça je l'ai dit, IST, c'est bon. On travaille aussi avec d'autres associations pour faire des événements comme par exemple normalement aux alentours du 1er décembre qui est la journée de lutte contre le VIH-Sida. On fait un événement qui s'appelle le banquet de la Saint-Sida, qui est un événement avec spectacle, d'autres associations pour présenter la soirée exactement en quoi ça consiste.
Ok.
Et on est de plus en plus aussi sur des questions de travail, sur les questions des personnes trans et intersexes, qui pour nous étaient une découverte, mais on commence avec le partenariat d'autres associations, par exemple Lilloise, on développe la question au sein du Planning 62.
Peux-tu nous parler de la Gay Pride? Bon, en quoi elle consiste exactement?
Alors, la Gay Pride, on n'utilise plus trop ce terme parce que dans les associations militantes, Gay Pride, en fait, ça veut dire, on l'a traduit par la marche des fiertés, parce que Gay Pride, ça ferait référence à ce qu'il n'y ait que des gays, donc que des homosexuels hommes qui participeraient, alors que non, pas du tout, comme je l'ai dit avant, c'est la communauté LGBTQIA+, donc en fait, il n'y a pas que des gays, il y en a plusieurs, donc ces marches des fiertés, en fait, c'est pour demander des droits que la communauté LGBT n'a pas, donc ça a commencé aux États-Unis, ça a commencé à New York à la fin des années 60 suite à une énième descente de flics dans un bar qui s'appelle le Stonewall. Et il y a deux activistes trans et travailleuses du sexe qui sont Sylvia Rivera et Marsha P. Johnson qui ont créé des émeutes pendant une semaine à New York. Et pour fêter l'anniversaire de ces émeutes, un an après, il y a eu la première marche des fiertés qui a été organisée. Et puis depuis, c'est devenu une marche qui est courante chaque année pour revendiquer des droits dans la communauté LGBT et pour montrer qu'on existe.
D'accord. Actuellement, a-t-on des chiffres sur les violences contre les homosexuels en France ?
Alors, il y a au sein du planning familial, non, mais par contre, il y a l'association SOS Homophobie qui, chaque année, dresse un bilan des violences qui sont faites envers les LGBT. Et alors, je n'ai pas les derniers chiffres en tête, mais ce qui a été flagrant, c'est que suite à 2013, donc qui est l'année où en France, on a instauré le mariage pour tous, il y a eu une recrudescence des violences envers les LGBT en France, en tout cas.
Donc, as-tu déjà eu affaire à des cas d'urgence, en particulier ?
Des cas d'urgence, c'est-à-dire ?
Envers les personnes homosexuelles, enfin les personnes qui viennent vous voir à l'association pour parler des violences qu'ils subissent tous les jours. Enfin, je ne sais pas, après...
Alors, au sein de l'association, on a deux moyens d'avoir ça. On a déjà le bar LGBT. C'est en fait tous les premiers vendredis de chaque mois, on invite les personnes LGBT à venir autour d'une collation pour discuter de la vie et tout ça. Mais pendant ces périodes-là, on n'a pas forcément des personnes en mal-être. On a eu une fois une personne trans en mal-être parce qu'en fait, au niveau de ses études, ça ne se passait pas bien. La transidentité ne passait pas pour les professeurs et pour les camarades de classe, donc on a eu juste ça. Après, on a les permanences qui sont les lundis, mercredis et vendredis après-midi, où là, les conseillères familiales et conjugales peuvent venir, peuvent recueillir les témoignages, mais ne faisant pas partie, je pourrais pas te dire un peu les cas d'urgence qu'on pourrait avoir dans ces cas-là. Mais effectivement, nous, on est un lieu d'écoute. Donc, toutes les personnes qui souhaitent parler d'une manière ou d'une autre parce qu'elles sont victimes de violences peuvent contacter le planning familial par téléphone, par mail, par Facebook ou même venir sur place parce que même dans ces périodes, il y a les permanences qui sont ouvertes au public. Donc, on a plusieurs moyens d'être contacté s'il y a besoin de discuter de violences envers les personnes LGBT.
D'accord, donc pourrais-tu nous donner des adresses et des numéros pour contacter l'association en cas d'urgence ?
Oui, donc si vous souhaitez contacter, donc déjà il y a le Facebook, donc Planning Familial 62. Alors on ne répond pas de suite quand vous nous envoyez un message sur Messenger, mais on essaye de répondre le plus rapidement possible. Il y a même une adresse mail, c'est contact@planningfamilial62.org. Et on a aussi un numéro de téléphone qui est le 03 21 28 43 25 pour pouvoir être contacté et être renseigné ou aidé parce qu'on peut rapprocher aussi vers des structures qui peuvent être plus compétentes que le planning familial.
Donc merci Florian d'avoir répondu à mes questions et de toute évidence semble quand même assez importante. Donc voilà, donc bonne journée à toi.
Bonne journée.
Et prends soin de toi.
Merci.
Aussi, hein, faut le rappeler quand même.
Oui.
Nous poursuivons notre émission avec Emma, une jeune fille de 14 ans qui a découvert il y a quelque temps qu'elle aimait les filles. Donc Emma, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue avec nous dans les studios de Micro Rebelle. Donc à quel âge as-tu découvert que tu aimais les filles ?
J'ai découvert vers mes débuts 13 ans.
Quelle a été la réaction de tes parents quand ils ont appris que tu étais plutôt attirée par les filles que par les garçons ?
Alors mon père, il a super bien réagi. Il m'a dit que c'est ma vie et que j'en fais ce que je veux et que dans tous les cas, il m'aimerait. Et ma belle-mère, elle a réagi à peu près pareil. Et ensuite, pour ce qui est du côté de ma mère, personne ne le sait.
Alors comment penses-tu que ta maman réagirait en l'apprenant ?
Je pense qu'elle le prendrait assez bien. Et au début, je sais que ça va lui faire un choc ou quoi, mais après, je sais très bien qu'elle va m'accepter et que je resterai sa fille.
As-tu des amis qui t'ont tourné le dos quand ils ont appris ton orientation sexuelle ?
Oui, j'en ai eu pas mal. J'en ai eu 15 environ, enfin 15, j'en ai 10, mais oui, juste pour ça. Quelques filles et la plupart du temps, c'était que des garçons.
D'accord. Que penses-tu des préjugés, des insultes, le fait aussi que certains homosexuels sont passés à tabac, est-ce que cela te fait peur ?
Déjà, pour les préjugés, c'est, enfin, il n'y a pas de préjugés sur les homosexuels ou les LGBTQ+, genre, c'est, il n'y a pas, il n'y en a pas. Et ensuite, bien sûr que oui, ça me fait peur, enfin, passer à tabac quand même pour des, pour une, enfin, une orientation sexuelle, c'est horrible.
Alors, que penses-tu de l'amour ? Comment vois-tu l'amour à 14 ans ?
Pour moi, l'amour à 14 ans, enfin, j'ai pas vraiment d'idée. Enfin, l'amour, j'arrive pas à la décrire. C'est, enfin, ça a pas de mots pour définir ça. Mais, enfin, pour moi, l'amour, c'est deux personnes qui s'aiment et personne doit les embêter ou quoi.
Quel conseil donnerais-tu en apprenant qu'un ami à toi soit attiré par une personne du même sexe ?
Ben, je lui dirais que je suis très heureux pour lui qui a enfin trouvé son vrai chemin et qui soit heureux tout le temps et que personne ne doit décider de sa vie.
D'accord. Alors, en tout cas, ben, merci beaucoup, Emma, d'être venue à Micro Rebelle pour témoigner.
De rien.
Nous te souhaitons d'être heureuse et surtout ta vie, ben, tu la vis comme tu l'entends et non comme les autres l'entendent. Ouais. Prends bien soin de toi. Donc voilà, notre émission est à présent terminée. Nous vous souhaitons plein de bonnes choses. Portez-vous bien et si d'ici Noël, on se revoit plus, ben, bonne fête de fin d'année à tout le monde. À bientôt. Donc, avant de terminer cette émission, nous accueillons parmi nous Carole qui fait partie de la fondation Le Refuge qui se situe à Lille. Bienvenue Carole.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour. Pouvez-vous nous présenter la fondation dont vous faites partie en quelques mots ?
Alors, en fait, le refuge accueille et héberge des jeunes qui, en fait, subissent la transphobie, l'homophobie et rejetés souvent par leur famille. Donc, c'est vraiment des jeunes qui se retrouvent à la rue. Et nous, on les accueille, on les héberge, on les aide au niveau administratif et on les aide surtout à se ressourcer, ces jeunes. Parce que forcément, quand ils arrivent chez nous, ils sont complètement perdus. Donc, généralement, ils font appel à la ligne d'urgence et nous, on les héberge, on les aide aussi. Donc, comme je disais, au niveau administratif, on les aide à retrouver donc un emploi. Une situation aussi, s'ils veulent par exemple faire des formations, s'ils veulent simplement retourner à l'école, parce qu'on a des jeunes qui sont parfois, parce qu'en fait nos jeunes entre 18 et 25 ans, donc on a des fois des jeunes qui, voilà, qui sont encore des bébés, je dirais, et donc qui veulent retourner à l'école ou faire des formations, c'est selon, c'est du cas par cas en fait.
Combien de personnes homosexuelles donc accueillez-vous au sein de votre fondation ?
Alors chez nous, on en a 9, sur l'île on en a 9. Parce que bon, on a 2 appartements, donc un appartement il y a 5 jeunes, donc l'autre 4. Après, on a des accueils jour. Alors les accueils jour, c'est différent. Ce sont des jeunes qui vivent ou soit chez des amis, ou soit dans encore une grand-mère, une tante. Et en fait, on les accueille uniquement pour l'administratif. Donc c'est totalement différent. Nous ici sur l'île, on a 16 jeunes. Mais sinon, si on prend au niveau du national, parce qu'on a quand même 20 délégations, on est à 450 jeunes hébergés en France. Nous, cette année, parce qu'hier, j'ai fait le bilan avec ma travailleuse sociale, on est à 42 jeunes accueillis cette année.
Et jusque où peuvent aller justement les violences homophobes au niveau familial ?
C'est toujours très violent. Un jeune qui arrive malheureusement au refuge, forcément il a subi donc cette homophobie, ou alors c'est des jeunes qui quittent carrément leur famille parce que trop anxiogènes. Alors les violences, elles sont... par exemple, j'ai une anecdote d'un jeune, donc une jeune fille, donc lesbienne, donc dès le papa a su qu'elle était lesbienne, son père l'a violée. Voilà, oui, non, mais c'est extrêmement violent. Hein, donc, elle a été violée par son père et aussi par le meilleur ami de son père pour qu'elle puisse aimer ça. Donc, c'est ça. Donc, on a aussi des jeunes qui subissent par exemple, j'ai eu un jeune qui a été. Dont le papa, en fait, le mettait pendant 3 jours, il l'enfermait pendant 3 jours sans boire, sans manger pour qu'il guérisse. Il y a aussi des jeunes qui subissent des thérapies de conversion. Alors ça, c'est pareil, c'est extrêmement violent. Moi, j'en ai un actuellement. Alors, les thérapies de conversion, ça peut être tout simplement des jeunes qui sont attachés avec des chaînes, qui doivent prier toute la journée. On leur fait manger vraiment des trucs bien, excuse-moi du terme, est dégueulasse. Voilà, donc ces jeunes subissent vraiment des violences atroces. Et il y a par exemple aussi des jeunes qui sont des demandeurs d'asile. Là, c'est différent parce que c'est très dangereux pour eux. Donc c'est pour ça que tous les appartements ont des adresses cachées pour la bonne et simple raison. Si cette famille vient, c'est généralement pas pour leur faire des bisous. Les familles les recherchent pour les tuer. En fait, la vérité du refuge, elle est là. C'est parce qu'on ne s'imagine pas. C'est vrai que moi, personnellement, j'étais très choquée. Moi, quand je suis arrivée comme déléguée, pour moi, c'était simple. C'était des jeunes qui faisaient leur coming out et qui étaient virés de chez eux. Déjà, le fait de virer son propre enfant de chez soi, c'est extrêmement violent. On a des jeunes qui, vraiment, le soir de Noël, se retrouvent vraiment jetés dehors. C'est-à-dire qu'ils dorment dehors. Ils ont un sac poubelle et c'est dehors. Donc déjà, ça, c'est très violent. Mais après, au fur et à mesure du temps, les jeunes viennent nous raconter leurs histoires. Et quand les histoires sont extrêmement, des fois dérangeantes, extrêmement bouleversantes pour moi, parce que ces jeunes me racontent ça. J'ai subi ça, j'ai subi des coups, j'ai subi... Voilà, c'est aussi des violences psychologiques, parce que c'est souvent dire « tu n'y arriveras à rien, t'es qu'un sale », voilà. Et évidemment que c'est très violent, mais c'est la réalité des choses. Les jeunes qui arrivent au refuge sont complètement détruits psychologiquement et physiquement. D'où le fait, quand ils arrivent chez nous, moi déjà, quand ils disent, en fait, un jeune arrive chez moi, dans ma délégation, là, je laisse 2 jours se poser, simplement de se prendre une douche, simplement qu'on les accepte tels qu'ils sont, parce qu'ils soient trans ou simplement gays ou lesbiennes, on s'en fiche au refuge. Le but, il est là. On les accepte tels qu'ils sont. Et le but, c'est ces jeunes, en fait, c'est de leur parler. Ils ont besoin réellement de parler. Et ensuite, c'est de faire tout ce qui est administratif. Parce qu'on a des jeunes qui arrivent vraiment sans papier, parce que les parents n'ont pas donné bêtement la carte d'identité. C'est vraiment... Il y a toute une reconstruction derrière. Et généralement, les jeunes qui arrivent chez nous restent entre 0 et 6 mois. Parce qu'en fait, 9 mois, entre 0 et 9 mois. Parce qu'il y a toute une reconstruction qui est derrière. Mais dont, c'est pour ça qu'on a un psychologue et un psychiatre. Qui a un réel besoin.
Et pendant les 2 confinements, est-ce qu'il y a eu une recrudescence justement de personnes violentées ?
Oui, malheureusement, avec le confinement, il n'y a pas une once de sympathie vis-à-vis en fait des parents. Bien au contraire, nous on a eu, sur toute la nationale, on a eu 50 jeunes à héberger en urgence. Donc Dieu merci, on a eu en fait des partenariats avec des hôtels, avec des on pouvait loger les jeunes. Moi, j'en ai eu 4. À mettre en urgence à l'abri. Parce que ces jeunes, c'est pareil, ils subissaient des violences. Moi, j'ai eu un jeune, par exemple, qui était depuis 2 jours dehors, sans manger, sans boire. Et on appelle la ligne d'urgence et on les prend, on les met dans un hôtel. Tout de suite, on leur rend, c'est à manger. Et puis c'est une écoute, surtout. Il y a vraiment la ligne d'écoute. J'ai rapporté d'ailleurs le numéro de la ligne d'écoute que je n'ai pas. Il est dans mon sac à main. Je le donnerai après. Mais j'ai amené en fait des petites cartes justement pour s'il y a des jeunes sur Lens ou des jeunes qui n'osent pas dire à leurs parents je suis homosexuel et que c'est parfois très 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 compliqué pour un jeune. Voilà, il faut savoir qu'il y a vraiment une ligne d'écoute. Une ligne d'urgence, et ces jeunes peuvent appeler. Simplement, déjà, il y a de l'écoute, ce sont des gens qui sont formés pour ça, et il y a toujours une écoute par rapport à ça, c'est très important.
Et pour les personnes mineures, les jeunes mineurs, viennent-elles d'elles-mêmes ou elles sont confiées par un juge ?
Alors souvent, nous les jeunes, dans les délégations, c'est entre 18 et 25 ans, mais il y a en fait ce qu'on appelle la maison des jeunes, donc qui est plus sur Montpellier. En fait, là, on accueille des jeunes, donc des adolescents. Et souvent, il y a les deux, en fait, c'est des fois les parents qui, par rapport au voisinage, par rapport à plein de choses, qui mettent en fait leur enfant à l'abri, ou souvent c'est sur la décision d'un juge.
Les personnes qui sont sous votre protection continuent-elles à être persécutées par leur famille ?
Ça arrive parfois. Moi, j'ai eu un jeune la maman lui disait « Oui, tu te rends compte, qu'est-ce que tu as fait au niveau de la famille ?» « Tu n'arriveras jamais à rien, t'es qu'un raté. » Et en fait, quand ce jeune en fait bloquait sa mère, elle trouvait toujours le moyen de l'appeler par un autre biais. Le but, c'est vraiment de détruire son propre enfant. C'est extrêmement violent. Nous, on a eu un jeune qui a reçu un petit message d'un de ses parents. C'était marqué « Bon anniversaire ». La jeune dit « C'est bizarre, c'est pas mon anniversaire ». Et en fait, c'était le papa qui s'y disait « ça fait 3 mois qu'on t'a viré. Bon anniversaire ».
Que faites-vous pour les personnes ? Est-ce que vous les aidez à trouver un travail, un appartement ou pour les personnes mineures justement à continuer leurs études?
Alors ça, comme je disais, en fait, ça c'est plus du côté de Montpellier, mais c'est vrai qu'en fait, ils continuent leurs études, ce qui est logique, parce qu'ils sont mineurs, ils doivent continuer leurs études. Moi, au niveau de ma délégation, quand ils arrivent, c'est vraiment de leur trouver un travail, pour que ces jeunes puissent en fait continuer leurs études, faire des BTS. Mais vraiment, le but, c'est qu'ils aient un travail et un appartement. Moi, mon but, il est là. C'est généralement, jusqu'à maintenant, ça va, j'y arrive. Et, parce que c'est vraiment que ces jeunes se reconstruisent. Le but, il est là, et simplement qu'ils s'acceptent tels qu'ils sont, que ce ne soit plus des numéros. Parce qu'il y a tout un travail, c'est ça qui est important, c'est souvent de l'écoute. C'est des jeunes qui, parfois, ont juste besoin. Moi, par exemple, j'ai un énorme nounours au local. Il faut voir ces jeunes prendre ce nounours dans leurs bras, parce qu'ils ont besoin d'un câlin, tout simplement, parce qu'on est rejeté par leur famille. Par exemple, moi, j'ai une jeune trans, donc une fille qui devenait garçon. Sa propre mère lui a dit « Désormais, tu ne m'appelles plus maman. J'ai mis une fille au monde. » Pas un garçon. Et ce jeune, à un moment donné, ben, en fait, il était dans un fauteuil roulant, faut savoir. Donc, il avait une maladie où ses muscles s'atrophiaient. Et donc, il était dans un fauteuil roulant. Et en fait, ce jeune, sa propre mère lui avait dit à son frère, voilà, tu casses la figure à ton frère. Et donc, on a recueilli. Vraiment, ce jeune était complètement... il était vraiment très, très mal déjà physiquement parce que voilà, son frère le frappait sous l'œil bienveillant de sa maman. Et ce jeune, un jour, il y a un moment donné, ça sort tout seul. C'est le côté maman, ça manque parce qu'en fait, il y a une grosse crise de larmes. Il m'appelle maman, ça arrive parfois. Et il y a aussi des périodes qui sont plus compliquées aussi chez les jeunes. C'est au niveau, par exemple, on est bientôt à Noël et c'est vrai que pour eux, c'est très compliqué parce qu'il faut savoir que ces jeunes, il n'y a plus de famille. Il n'y a plus aucun lien familial. C'est-à-dire que certains jeunes, il n'y a plus de tante, il n'y a plus de sœur, il n'y a plus de... Moi, j'ai un jeune qui est parti, mais qui vient toujours, qui fait toujours partie de la grande famille du refuge. Mais ce jeune, en fait, il me disait, ce qui était plus dur pour lui, c'est de plus voir ses neveux et nièces. Parce que sa mère, franchement, c'était un monstre, voilà, il était homosexuel. Et pour lui, c'était très, très dur de plus voir ses neveux et nièces. Et parce qu'il n'y a plus rien du tout, il faut savoir, il n'y a plus rien. Imaginez, il faut s'imaginer aussi donc ces jeunes demandeurs d'asile qui viennent parce qu'ils fuient leur pays, parce qu'ils sont homosexuels. Là, c'est pareil, ils sont des millions de kilomètres de chez eux déjà. Et il n'y a plus rien. Le refuge est leur seul soutien, d'où le nom du refuge. Parce que c'est vraiment ce côté familial. On est là vraiment pour les protéger.
Donc, ils sont suivis psychologiquement.
Oui.
D'accord. Allez-vous à la rencontre aussi des jeunes dans les lycées, dans les collèges pour sensibiliser?
Justement, on fait beaucoup, on a une agrémentation par rapport à ça au niveau national. On fait beaucoup de ce qu'on appelle des IMS, donc des interventions en milieu scolaire. Ce qui permet, je dirais, de sensibiliser la cause sur l'homophobie, la transphobie. C'est très important, on espère que ces générations que je vois, moi, régulièrement, vont changer. Ça dit, en fait, que j'espère qu'un jour, le refuge n'existera plus. Parce que ça voudrait dire que, on accepte les gens tels qu'ils sont. Mais on est très, très loin du compte. Parce qu'en fait, encore cette année, il faut savoir qu'on a reçu 30% d'appels en plus. Malheureusement, je dirais, c'est pas prêt de s'arrêter. Et heureusement que le refuge est là pour accueillir ces jeunes. Mais au niveau national, ça a été, je crois, si ma mémoire est bonne, 4500 jeunes qui ont appelé donc, sur la ligne d'urgence.
Donc, y a-t-il des actions faites avec les parents?
Alors, malheureusement, non. Parce qu'en fait, c'est selon les jeunes. Alors, des fois, il arrive que des parents nous appellent en disant « Voilà, je veux reprendre ma fille. » On a eu le cas d'une gamine, en fait, qui était battue par sa mère. Sa maman voulait la reprendre juste pour la battre. Voilà. Et donc, forcément, dans ces cas-là, on évite, en fait, la confrontation. Parce que si les jeunes disent « Non, je ne veux pas voir mes parents. » Voilà, nous, on suit les jeunes. Notre but, c'est vraiment de protéger les jeunes. C'est le but. Par contre, il m'est arrivé d'avoir une maman qui est venue nous voir au local pour nous dire j'ai plus de nouvelles de ma fille, enfin, ce qui est logique. En fait, c'était le papa qui l'avait viré. Et en fait, cette maman venait en disant où est ma fille? Est-ce qu'elle va bien? Donc, dans ces cas-là, on lui a dit oui, elle va bien. Et elle est plus en fin de compte ici à Lille, mais si elle demande l'adresse, c'est non. En fait, on refuse de donner les adresses parce que dès qu'un enfant quitte sa famille, ils n'ont plus du tout envie de voir sa famille. Il arrive parfois qu'en fait, des parents ou même des jeunes reprennent contact avec leur famille avec le temps et que les parents en fait acceptent que leur enfant soit homosexuel. Ça arrive. Nous, on n'est pas là, surtout au refuge, on n'est pas là, surtout pas là pour juger les gens, surtout pas les parents. Voilà, si des parents, on ne peut pas être en conflit avec les parents, parce qu'en fait, les jeunes, faut bien se dire aussi que, quelle que soit la situation, même qu'elle se soit terrible, ça reste toujours leurs parents. Et que tôt ou tard, ils seront confrontés à leurs parents d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est compliqué. Mais nous, au refuge, quand un parent arrive, non, c'est non. Surtout, c'est toujours par rapport à la cour du jeune.
Donc, avez-vous donc un numéro de téléphone à nous donner ?
Oui, bien sûr. Alors, la ligne d'urgence, c'est le 06 31 59 69 50. Donc, c'est une ligne qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, si des jeunes se sentent mal, qui sont homosexuels, qui ont du mal à leur dire à la famille, en tout cas, ils peuvent appeler ce numéro d'urgence. Et il y aura une écoute et il y aura un suivi. Si, par exemple, ces jeunes doivent être mis à l'abri, surtout qu'ils n'hésitent pas vraiment à appeler cette ligne d'urgence. Donc, je répète le numéro qui est le 06 31 59 69 50.
D'accord, donc l'émission est à présent terminée. Je vous remercie toutes et tous d'avoir participé. Donc Luc, Florian, Emma et vous, Carole.
Merci Stéphanie, beaucoup. Merci Luc.
Une enquête de Mediapart a révélé des cas de harcèlement et de pression sur les bénévoles et salariés au sein de cette fondation. Nous avons recontacté Carole pour en savoir davantage. Elle nous précise qu'à l'antenne des Hauts-de-France, il n'y a aucun problème d'harcèlement. C'est pourquoi nous avons décidé la diffusion de cette interview.